Bonjour. Je vous invite à éteindre vos téléphones portables pour ceux qui ne les ont pas encore éteints, à enlever peut-être tout ce qui peut vous distraire si vous êtes à la maison, à vous mettre à l'aise ici sur votre chaise dans cette salle, et si vous êtes chez vous, peut-être vous mettre à l'aise dans votre canapé, et que nous puissions prendre ce temps pour vraiment être dans la présence du Seigneur, nous concentrer sur lui seul, le mettre à l'honneur et nous mettre à l'écoute de sa parole pour le louer et pour l'honorer. J'aimerais souhaiter une bienvenue particulière à tous ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, à ceux qui viennent peut-être depuis peu de temps. Soyez vraiment les bienvenus parmi nous. Et puis j'aimerais souhaiter une bienvenue particulière à Charline, qui est revenue hier d'Afrique. Bienvenue. Le Seigneur a gardé ton départ et ton arrivée comme promis. On a pu suivre ses péripéties dans ses lettres de nouvelles, enfin ses joies et ses peines. Et puis que le Seigneur te bénisse et continue à te bénir avec Jean-Marc aussi dans votre suite de parcours. J'aimerais aussi rappeler qu'on a la joie de pouvoir à nouveau chanter en assemblée. Alors bien pensez à garder le masque du début à la fin, y compris pendant le chant. Et puis que vous puissiez vraiment chanter de tout votre cœur masqué. Et même si on est vacciné, c'est pareil. Je vous invite à prier. Seigneur, merci de pouvoir nous réunir en ton nom, librement dans ce pays. Merci de pouvoir venir avec nos soucis, nos fardeaux, te les apporter. On n'a pas besoin de faire comme si tout allait bien, mais toi tu vois nos cœurs, tu nous connais. Et tu es aussi, tu nous dis dans ta parole que si deux ou trois personnes sont assemblées en ton nom, tu es au milieu de nous. Alors merci de ta présence et merci, nous t'accueillons Seigneur Jésus, viens parmi nous nous parler. Nous aimerions t'apporter spécialement les personnes qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit, que les personnes aussi qui sont dans le deuil, dans la maladie, qui n'ont pas pu venir pour d'autres raisons, nous te les apportons aussi. J'aimerais aussi t'apporter spécialement les étudiants de notre communauté qui sont en plein examen ou qui vont les commencer, qui sont en révision, que tu puisses les soutenir, les fortifier et vraiment être à leur côté. Merci aussi de décharger nos fardeaux, que nous puissions te les apporter vraiment au pied de ta croix. Que tu sois vraiment notre guide, notre phare, notre rocher, notre bouclier, et que tu sois toujours présent à nos côtés. Merci pour cette assurance que nous avons en toi. Amen. Quand on prononce certains noms, quelquefois ça nous évoque des sentiments, des émotions. Si par exemple je vous dis le nom Hitler, j'imagine que ça évoque pour vous peut-être un sentiment de colère, de peur, de haine. Si maintenant je vous dis le nom général de Gaulle, ça peut peut-être vous évoquer le nom, un sentiment de liberté, de joie. Ou si je vous dis par exemple Charlie Chaplin, peut-être ça vous évoque tout de suite un sourire, la joie. Et maintenant, si je vous dis un nom spécial, le nom Jésus, le nom de Jésus, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que vous avez des sentiments, quelque chose qui vous vient là? Un ami? Un ami qui tient ses promesses. La paix. Quelqu'un d'autre? L'amour. La justice. Il nous a libérés. L'espérance. L'accueil. Je pense qu'il n'y a pas de sentiment négatif quand on pense à Jésus. C'est que du bonheur. Pour moi, ça m'évoque, enfin, c'est vraiment comme si mon cœur se gonflait d'amour et c'est un apaisement. Comme si on est amoureux. Ou on entend le mot de Jésus et on est tout émerveillé. Et mon désir, c'est que ce nom soit toujours, jusqu'à la fin de mes jours, le seul nom qui soit important pour moi, jusqu'à mon lit de mort, en fait. Et que je ne sois pas comme un ancien voisin qu'on avait, qui, sur son lit de mort, enfin, quelques jours avant de mourir, il pensait à son vélo qu'il n'avait pas pu utiliser, ou à sa nouvelle voiture. Mais qu'on soit plutôt comme cet ami qu'on avait, et qui est mort trop tôt à 46 ans, et qui demandait juste qu'on lui lise des passages bibliques encore, parce qu'elle était trop faible. pour les lire elle-même, qu'on soit vraiment avec ce nom sur nos lèvres jusqu'à la fin de nos jours. Et je vous invite à chanter « Je n'ai que toi » en pensant vraiment aux paroles que nous chantons. Oui, Jésus, ce nom si merveilleux, proclamons-le. Il est venu pour chacun d'entre nous sur la terre, nous libérer du péché. Et rien ne peut nous séparer de son amour. Est-ce que vous le croyez ? Amen. On va chanter ce nom si merveilleux.
La terre a tremblé, Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
Sommes-nous assoiffés de Jésus, d'avoir une relation personnelle avec lui ? Jésus a dit « Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra pour lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est dans Jean 4, 14. Nous chantons « Jésus, tu es là ». J'ai oublié de dire qu'on peut se lever si vous voulez chanter « Jésus, tu es là ». Je vous propose un moment de prière communautaire. Et comme dimanche passé, nous l'avons fait, nous allons passer avec le micro pour que les personnes qui sont chez eux puissent entendre ce que nous disons. Donc vous êtes libres de pouvoir prier à haute voix, des courtes prières. Il y a Jacques qui passera avec le micro. Et je terminerai ce moment.
Oh oui, Jésus, tu es là, tu es avec nous et nous voulons faire monter de nos cœurs notre adoration. Dans la simplicité, mais Seigneur, on sait que tu es là et que tu nous entends. Amen.
Seigneur, je te rends grâce parce que tu es mon Dieu. Je te loue de tout mon cœur. Seigneur, je veux te remercier devant mes frères et sœurs pour la grâce que tu m'as faite. Tu as guéri mon fils, Seigneur. Maintenant, je te demande, Père, guéris son cœur pour qu'il soit à toi, pour qu'il vienne à toi, pour qu'il te reconnaisse comme Seigneur et Sauveur. Je suis plein de confiance et de reconnaissance. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen.
Oui, Seigneur, le grand Dieu, tu es là et ça te mérite, pas seulement parce que je le dis, que je le sais, mais parce que toi-même, tu as dit que tu serais toujours avec nous. Et Seigneur, merci pour ce privilège parce que tu es là, pas seulement le dimanche matin, mais tu es tous les jours et à tous les instants. Et Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons nous adressé à ce Dieu-là. Sois loué, sois béni, sois exalté. Amen.
Seigneur, de savoir là, présent avec nous, de savoir de notre côté, de savoir en nous, cela nous suffit. Merci d'être là pour nous. Amen.
Merci Seigneur de pouvoir nous associer, d'associer notre louange à tous ceux qui ce matin sont devant toi, que nous avons connaissance. Nous prions surtout pour ceux qui sont en difficulté, qui n'ont pas le privilège d'être unis comme nous sommes ce matin. Nous te disons notre profond merci de notre cœur. Amen.
Merci parce que nous avons cette liberté de nous rassembler. Merci parce que l'Église, aujourd'hui, nos frères et sœurs, merci pour cette famille dans laquelle nous recevons tellement d'amitié, d'affection que nous pouvons partager en ton nom. Amen.
Oui, merci Seigneur pour ce privilège de pouvoir te prier librement. Merci de bénir le message qui va être apporté par Sylvain. Que tu puisses, Saint-Esprit, ouvrir nos cœurs, entendre ce que tu veux nous dire. Et que nous ne pensions pas toujours c'est pour mon voisin ou quelqu'un d'autre, mais que nous prenions ce qui nous est destiné et que tu fasses résonner en nous, en notre cœur, ce que tu veux nous dire. Que nous puissions ressortir d'ici avec quelque chose. En plus, chacun, où nous en sommes dans notre vie, que tu puisses vraiment nous rejoindre dans notre quotidien. Merci de bénir Sylvain, de bénir ta parole. Amen.
Je vais lire dans Actes 2, les versets 42 à 47. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. Chacun reconnaissait l'autorité de Dieu car il accomplissait beaucoup de prodiges et de signes extraordinaires par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, d'un commun accord, ils se réunissaient dans le temple, ils partageaient ensemble le pain dans chaque maison et prenaient leur nourriture avec joie et sincérité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe les personnes qui l'amenaient au salut.
Voilà, bonjour et merci à l'équipe musicale qui nous a entraînés dans ce temps d'adoration, de louange. Il y a 3 semaines, c'était la Pentecôte. Et Philippe nous a interpellés avec le récit qui est raconté au 2e chapitre des Actes, où les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Ils se sont mis à proclamer l'Évangile dans toutes sortes de langues. Pierre a fait une prédication magnifique, il y a eu 3000 convertis. Et juste après cela, Luc, l'auteur présumé de l'Évangile et des Actes, il nous dépeint un tableau de la première communauté chrétienne. Première communauté à Jérusalem. Certes, c'est un tableau un peu idyllique, peut-être un peu idéalisé, parce qu'il a quand même été écrit au moins une, sinon 2 générations après les événements. Mais voilà, c'est là le fruit du Saint-Esprit. Alors cette communauté de partage, c'est une interpellation pour nous, pour beaucoup de gens, et c'est quelque chose qui a aussi inspiré bien des expériences concrètes. À l'époque de ma jeunesse, mon frère cadet, avec 2 autres familles, ont formé une communauté de vie dans une ferme au-dessus de Vevey. Ils avaient chacun leur métier à temps partiel, et puis ils partageaient leur salaire dans un pot commun, ils partageaient les tâches de la ferme. Ils prenaient régulièrement des repas tous ensemble, mais pas tout le temps, dans une grande salle à manger commune. Et c'est quelque chose qui leur donnait l'occasion d'accueillir des personnes en difficulté, des jeunes en panne, pour toutes sortes de raisons. Alors, ce n'est pas une expérience qui a duré toute une vie. Mais quand même, pour ce qui est de mon frère, ils ont fait 2 ans, puis après une interruption de 3 ans, puis de nouveau 11 ans. Et c'est pendant cette époque qu'ils ont eu de jeunes enfants. L'aîné avait 14 ans quand ils ont quitté la ferme. Et récemment, un de ses enfants, donc c'est mon neveu, qui est encore célibataire, les deux autres enfants sont mariés, ben, il s'est mis à vivre dans une communauté en ville à Lausanne, avec un peu cette même perspective de le faire aussi pour pouvoir accueillir d'autres. Je trouve ça très beau et j'ai toujours eu une certaine admiration aussi pour ces expériences, sans jamais moi-même d'ailleurs vivre quelque chose de semblable. Mais ça reste une interpellation. Mais c'est vrai que par ailleurs, si quand je suis parti au Laos en mission, je pense que l'idée de solidarité était aussi une de mes motivations, mais c'était plus l'idée de la solidarité avec les pays du Sud, les pays moins favorisés, qu'on appelait tiers-monde à l'époque. Alors, après cette introduction, j'aimerais qu'on reprenne le texte. Ah ben, j'ai oublié mon texte. Désolé, peut-être qu'on peut le rafficher. On va le prendre un peu verset par verset, voir un peu comment c'était. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. Alors, il y a quatre choses qui sont mentionnées ici. L'enseignement. Et je crois que c'est là un élément essentiel de la vie d'Église, parce que nous sommes tous des apprentis sur le chemin de la foi. Et l'enseignement, c'est l'enseignement des apôtres qui nous est transmis de manière particulière à travers la Bible. La communion fraternelle. Bon, communion, c'est un terme assez spirituel. Je ne sais pas si ça s'utilise beaucoup quand on discute au centre commercial. Ça exprime une qualité de relation dans la communauté, mais ça exprime aussi la solidarité, qui est un terme nettement plus concret peut-être, et qui est décrite plus loin dans le texte. Partager le pain. Bien entendu, ici, il s'agit de la Sainte Cène qui reste au cœur de leur vie cultuelle. Ben pourquoi ? Parce que c'est le souvenir au cœur de notre foi de Jésus qui a donné sa vie pour nous et de sa résurrection. Et puis participer aux prières, sans doute à la fois des prières chrétiennes et les prières juives auxquelles ils assistaient régulièrement. Bon, moi, je ne suis pas un modèle de prière. Mais la prière reste quelque chose d'essentiel dans la vie chrétienne et dans la vie de l'Église. Mais la prière a diverses formes. On est habitué à la forme prière libre dans nos églises. Mais il y a la prière liturgique qui a la même valeur. Il y a la prière personnelle qui peut être avec ou sans parole. Il y a simplement une attitude de reconnaissance, d'attente confiante de Dieu, même sans parole, qui est une forme de prière. Dans une rencontre du Conseil, dans une rencontre de prière récemment du Conseil, c'est vrai qu'on a prié officiellement un relativement court moment, mais Célina nous a fait remarquer à très juste titre que pendant qu'on partageait les sujets de prière, on était déjà dans la prière, en pensant à tel ou tel qui est en difficulté. Chacun reconnaissait l'autorité de Dieu, car il accomplissait beaucoup de prodiges et de signes extraordinaires par l'intermédiaire des apôtres. Alors, je ne vais pas beaucoup développer ce point, mais je fais une petite remarque. Les prodiges et les signes extraordinaires, c'est des choses qui sont très présents à certains moments de la vie de l'Église. Au Laos, je vous parle souvent du Laos, mais on voit même actuellement que c'est souvent à travers des guérisons ou des délivrances que des nouvelles personnes arrivent à la foi. Mais c'est vrai que par ailleurs, là-bas ou ici. Les miracles sont parfois moins fréquents ou moins visibles à d'autres moments, et que peut-être c'est plus souvent l'expérience de notre fragilité qui caractérise nos vies personnelles et nos vies d'Église. Mais je crois que ça ne change rien à la présence de Dieu au cœur de nos vies et dans toutes nos circonstances, au cœur de nos vies personnelles et des vies d'Église. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Mais voilà une composante très concrète de cette communion fraternelle, une solidarité vraiment complète. Et c'est vrai que c'est, comme je disais, ça semble très idyllique. Mais c'est vrai aussi qu'un petit peu plus loin dans le texte des Actes, Luc nous raconte une assez sombre histoire sur laquelle, j'avoue, j'oserais jamais prêcher. C'est l'histoire d'un couple, Ananias et Saphira, qui ont voulu tricher avec cette histoire de partage des biens. Et puis, quand ils ont été découverts, ils sont tombés raides morts l'un après l'autre. Alors, je ne vais pas commenter ça, je ne m'hasarderai pas, mais c'est peut-être un signe que ce n'est pas toujours évident. Chaque jour, d'un commun accord, ils se réunissaient dans le temple, ils partageaient ensemble le pain dans chaque maison et prenaient leur nourriture avec joie et sincérité de cœur. Ils se réunissaient donc dans le temple et ils participaient aux prières juives. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de participer à une célébration juive. Moi, je l'ai fait une fois dans un voyage en Israël et c'était très intéressant. C'était les trois quarts, c'était des récitations ou des chants de textes de la Bible. Et c'était très beau. Mais c'est très liturgique. Mais c'est très beau, très prenant. Ils partagent leur nourriture. En fait, ils prenaient leur nourriture dans des repas communautaires. Nous, on n'en a pas fait depuis un certain temps parce qu'on ne pouvait plus. Mais il faut savoir que dans les fêtes juives, le repas communautaire, c'est une part absolument essentielle. Et ils prenaient le pain, leur repas, avec sincérité ou avec simplicité, comme disent d'autres traductions. Moi, j'y vois là une espèce d'attitude de simplicité de vie, de reconnaissance sincère. Et je pense que sans forcément prononcer des prières explicites à tous les repas, on peut prendre ces repas en pensant avec reconnaissance que tout nous vient de Dieu, en pensant avec reconnaissance qu'il y a d'autres gens qui ont cultivé le blé pour faire le pain, ou qui ont cultivé du café beaucoup plus loin que chez nous. Voilà, c'est aussi une forme de prière, d'attitude de prière dans tout ce que nous vivons. Dernier verset, ils louaient Dieu, et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe les personnes qui l'amenaient au salut. On voit que cette première communauté, ce n'était pas un groupe qui s'était mis à part de la société. Mais au contraire, c'était une communauté ouverte qui avait un style de vie qui inspirait l'estime des gens autour d'eux. Et le Seigneur ajoutait les nouveaux croyants. Donc, d'après ce texte, ce n'est pas un groupe qui est en train de faire de la publicité pour recruter des nouveaux membres, mais c'est une communauté qui vit la foi avec authenticité, et c'est le boulot du Seigneur d'ajouter ceux qui sont amenés à la foi. Alors c'est vrai qu'on voit dans le livre des Actes aussi beaucoup d'actions d'évangélisation directe, de missions où un apôtre va, ou d'autres personnes, ça peut être des marchands qui changent de lieu, qui vont ouvrir de nouvelles communautés, ouvrir la porte de l'évangile dans de nouveaux lieux. Mais je crois quand même qu'ici et dans beaucoup de pays, finalement, c'est le témoignage de vie des chrétiens et des églises au quotidien qui est la manière ordinaire dont Dieu amène des personnes à le rencontrer. Alors, comme Philippe l'avait souligné à la Pentecôte, on est ici à vraiment un moment fondateur. Fondateur du christianisme, parce que c'est le message de Jésus-Christ qui commence à porter des fruits. Fondateur de l'Église, c'est la première Église assemblée. Fondateur de la mission, parce que c'est là que le message commence à partir dans toutes les langues et dans toutes les directions, et aller jusqu'aux extrémités de la terre, même jusqu'à Mérin. Mais est-ce que c'est le début du christianisme? Il faut un petit peu nuancer, parce que ni Jésus ni les premiers chrétiens n'ont jamais eu l'idée de fonder une religion. À cette époque, ces communautés chrétiennes sont entièrement insérées dans le judaïsme. C'est des gens qui ont la foi juive, mais croient que Jésus est le Messie et décident de le suivre. Et ils seront bientôt persécutés par des juifs, mais pas tous les juifs. Ils sont persécutés par les juifs de la tendance pharisienne. Mais il y avait beaucoup de tendances parmi les juifs. En fait, selon les historiens, il a fallu au moins un siècle pour qu'on puisse dire, sur le plan de l'histoire, que le christianisme est devenu une religion séparée du judaïsme. Mais en fin de compte, être chrétien, ça n'est pas être adepte d'une religion, même si on ne peut pas s'abstraire de l'histoire de l'Église avec ses ombres et ses lumières, mais c'est tout simplement vivre en disciple de Jésus. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour aujourd'hui? J'aimerais partager quelques pistes de réflexion. Sans doute, ça serait préférable de pouvoir le faire en discussion, mais disons, c'est un peu difficile dans une grande salle comme ça. Et les deux aspects que j'aimerais souligner, c'est ceux de la solidarité, qui est là très explicite, et celle de l'accueil, qui est peut-être moins évidente directement dans ce texte, mais qui est quand même très présente si on lit l'ensemble de l'Évangile et des Actes. Alors d'abord, la solidarité. Moi, je pense que dans notre Église, on a beaucoup de solidarité. Mais ça reste quelque chose qui est à développer, et on pourra peut-être inventer d'autres formes de solidarité. Et puis, il y a aussi une part d'apprentissage. Parce que dans notre société, et je me mets dedans, on aime bien avoir notre autonomie à être indépendant. Ce qui m'a fait un peu penser, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai été confiné pendant 2 semaines, pour les raisons pour lesquelles on se fait confiner, avec un téléphone tous les jours des services du médecin cantonal. Alors, il y a des personnes qui m'ont... Je suis très reconnaissant, il y a des gens qui m'ont fait des courses, il y a des gens qui m'ont amené même des repas à domicile, c'est génial. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas si simple d'accepter que ce soit une autre personne qui vous fasse les courses. Surtout pour moi qui ne sais jamais à l'avance ce que je vais acheter. Alors, quand on me dit « t'as besoin de quoi ?» Ouf. Voilà. Donc, voilà. Mais je pense que c'est bien d'apprendre à aussi être dépendant les uns des autres. Ça fait partie de la solidarité. Mais la solidarité de la première église et des premières églises va plus loin que ça. On voit Paul, après fonder des églises, il n'est pas le seul, il y a beaucoup d'églises qui se fondent dans toute une région de l'Empire romain, et Paul fait des voyages qu'on appelle dans nos Bibles des voyages missionnaires. Si vous regardez ce qu'il fait dans ses voyages missionnaires, la majorité de son temps et de son activité, ça consiste à cultiver la solidarité entre les églises. Les églises, cultiver cette idée que ces communautés diverses font partie d'un même corps. Et surtout qu'elles étaient à des mois de voyage de distance. Je ne sais pas si vous voyez sur Terre un endroit qui est à des mois de distance de voyage aujourd'hui, à moins d'y aller à vélo. Et ça s'est concrétisé un beau jour par une collecte que les églises ont faite pour les chrétiens de Jérusalem. Et ils n'avaient pas de système bancaire pour transmettre les fonds. Alors pour moi, ça a dit quelque chose pour aujourd'hui. C'est un fondement de ce qu'on vit aussi à Mérin, d'une part dans l'œcuménisme local, parce que c'est essentiel entre chrétiens de cultiver des relations. Ça demande un effort, mais il est important. Et pour notre Église, il a été pratiqué depuis les tout débuts de la communauté et il nous a ouvert beaucoup de portes dans notre témoignage local ici à Mérin. Mais il y a aussi nos relations avec la Fédération d'Églises évangéliques de Suisse romande, la FRE, dont nous faisons partie. Ça se reflète dans notre budget. Et puis il y a toutes sortes d'actes de solidarité avec d'autres églises ailleurs dans le monde. Puis le séjour de Charline en Guinée, je n'ai pas vu où elle est, mais... Ah là, voilà. Ça... Ben, le séjour de Charline en Guinée, c'est un exemple de pratique de cette solidarité entre églises, entre pays. Voilà. Et dans la société, moi je suis convaincu que la solidarité, elle va plus loin qu'entre chrétiens. Et que l'appel à la solidarité, c'est quelque chose d'important pour toute la société. C'est quelque chose du message de l'Évangile qu'on doit porter. Donc c'est notre devoir de chrétien de militer pour plus de solidarité. On vient d'en avoir un exemple avec les vaccins. Alors la décision de partager beaucoup plus de vaccins avec les pays du Sud, elle est un peu intéressée. C'est pas un pur amour désintéressé, mais c'est important quand même. La pandémie a aussi montré, sur le plan de la société, que parfois il est indispensable d'enfreindre des lois, que je mettrai entre guillemets, des lois économiques. C'est des lois que parce qu'on laisse faire le marché tout seul, ce n'est pas des lois de la physique qu'on ne peut pas enfreindre, c'est des lois qu'on peut enfreindre quand on le décide collectivement. Et parfois il le faut. Et puis nous sommes, je crois, appelés dans tous les domaines à ce que la solidarité prime sur le profit. Je pense dans les relations Nord-Sud, c'est frappant, mais aussi dans l'organisation sociale à l'intérieur de nos pays. Et puis aussi dans les défis de l'écologie, c'est notre solidarité entre générations. Quelques mots maintenant sur l'accueil. Comme je disais, tout le récit des Luc et des Actes montre comment les rejetés de la société, de toutes sortes, ont été accueillis par Jésus et par les premiers chrétiens. Alors, progressivement, beaucoup de non-juifs ont rejoint la communauté. Alors, ça a posé beaucoup de problèmes. Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes règles alimentaires, différentes choses. Comme on voit aujourd'hui, souvent les conflits religieux sont des conflits sur des règles alimentaires. Et certains pensaient que ces non-juifs qui venaient dans les communautés chrétiennes, il faudrait vraiment qu'ils adoptent toutes ces coutumes et ces règles juives. Mais avec beaucoup de sagesse, les apôtres, qui avaient en vue cette unité de toutes les églises, malgré toutes ces différences, ont organisé un concile, premier concile de Jérusalem, qui est raconté en acte 15, qui a abouti à une double décision. D'une part, dire que les non-juifs pouvaient entrer dans l'église sans se faire juifs, sans se faire circonscrire, sans respecter toutes les lois juives, mais en acceptant certaines restrictions dans le but de permettre aux gens de vivre ensemble, même de manger ensemble. Aujourd'hui, ce sont d'autres questions qui se posent. Je vous donne un exemple du Laos. Des rejetés accueillis, ça a été au siècle dernier, je pense, un des éléments majeurs du témoignage des églises chrétiennes. Ils ont accueilli des lépreux qui, autrement dans leur village, étaient chassés dans la forêt, tellement on avait peur de cette maladie. Ils ont accueilli des personnes qui étaient rejetées parce que supposées posséder d'un esprit mauvais, dangereux pour toute la communauté, mais souvent c'était une manière de se débarrasser de personnes qui étaient en bisbille avec la communauté. Mais voilà, ils étaient estimés comme dangereux et on les mettait en dehors du village. Et là, beaucoup ont été accueillis dans les églises. Et cette manière d'accueillir, je crois que c'était un élément clé de leur témoignage. Alors pour nous, aujourd'hui, on pourrait penser à beaucoup de sujets. Je pense qu'on est une église très accueillante. Il y a certaines questions qui restent difficiles. J'ai hésité, mais je vais quand même mentionner cette question des homosexuels, parce que ça provoque souvent de douloureux déchirements dans les églises. Alors ma conviction personnelle, c'est que sur un sujet comme ça, on devrait s'écouter et pas se déchirer. Et encore une fois, une conviction qui est personnelle, que j'impose à personne, qui va vers plus d'ouverture. Mais de manière générale, comment est-ce qu'on accueille des personnes qui n'entrent pas dans notre moule, qui n'ont pas notre culture, notre manière de parler, ou leur manière de s'habiller, qui nous semble bizarre. Comment est-ce qu'on accueille les étrangers? Comment est-ce qu'on accueille des gens qui viennent d'une autre religion? Alors, sûrement nous sommes accueillants, mais si on veut savoir si on est accueillant vis-à-vis de tel groupe, je pense que c'est à ces gens qu'il faut demander s'ils se sentent, dans quelle mesure ils se sentent accueillis. Parce que parfois, on peut avoir l'impression qu'on est très accueillant vis-à-vis d'une personne, mais on prononce des paroles qui font qu'elles ne se sentent pas accueillies. Alors, en conclusion, pour terminer, je repense à ce qu'on s'est dit dans notre dernier atelier biblique. On a souligné que nous sommes une famille. Une famille, mais pas un clan. Mais quelque part, nous sommes plus qu'une famille. Plus ouvert, plus large, et aussi en lien avec le monde entier. Mais dans cette famille, on nous rappelle souvent que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Peut-être qu'on pourrait dire que l'accueil et la solidarité sont le nom concret qu'on pourrait donner à cet amour fraternel auquel l'Évangile nous appelle. Alors que le Saint-Esprit puisse nous remplir de cette sorte-là d'amour. Amen.
pour faire suite à la prédication, on va chanter un dernier chant qui m'a fait penser au verset dans Galates 3, versets 26 à 28, qui dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Nous allons chanter, vous pouvez vous lever pour chanter une seule Église.
Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'Esprit. Et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances. Que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule. Une seule Église. Une seule Église.
Merci beaucoup. Pour terminer, j'aimerais vous lire un court texte écrit par Alain Lerbret qui est inspiré de Luc 12. Laissez à Dieu tout l'inconnu de votre vie. Vivez pour lui dans l'aujourd'hui. car l'avenir se tient dans le creux de sa main. Je vous le redis une fois. Laissez à Dieu tout l'inconnu de votre vie. Vivez pour lui dans l'aujourd'hui, car l'avenir se tient dans le creux de sa main. Et dans la continuité de ce que nous a partagé Sylvain, nous pouvons directement passer à la phase pratique en écoutant Claude Parnigoni qui va nous faire une annonce. Et ensuite, il y aura Ludovic Cosset.
Alors c'est vrai que ce matin, j'avais l'impression que Sylvain, il m'avait précédé dans l'annonce que je vais faire. Cela concerne une animation ou une manifestation communale de Mérin-les-Bains qui aura lieu du 29 juin au 17 juillet. Donc cette manifestation est inscrite pour les associations mérinoises et l'Église évangélique de Mérin s'est inscrite pour une journée qui sera le vendredi 9 juillet. Alors ce 9 juillet, donc l'Église évangélique est invitée d'une part l'après-midi pour faire une animation pour les enfants avec la Ligue pour la lecture de la Bible, donc les caisses à savon. Le soir, il y aura une raclette et salade de fruits. Et le soir, on passera un film, un style de transat, ciné-transat. Donc voilà les éléments. Alors, c'est vrai que, suite à l'enseignement un peu de Sylvain, et en lien aussi avec le monde entier, je pense que c'est un témoignage de vie chrétien donc, qui amènera des nouveaux disciples. Donc je vous propose vraiment de venir vous inscrire pour participer à cette journée d'une part, autrement dit aussi de venir partager la nourriture et de partager une raclette et une salade de fruits avec tous ceux qui seront là de l'Église évangélique. Et la prière aussi, ça j'encourage vraiment à anticiper, dans le sens où c'est vrai que on n'a pas le droit de faire du prosélytisme, on n'a pas le droit de faire de la pub chrétienne parce que c'est un événement laïque, mais on a le droit de répondre à des questions. Alors vraiment que le Saint-Esprit guide ceux qui viennent participer, les mérinois, les concitoyens qui viennent participer, puissent poser des questions par rapport à qu'est-ce que l'Église évangélique, qu'est-ce que notre foi chrétienne, et que nous puissions y répondre vraiment dans la paix et dans la grâce de Dieu. Alors, pour ceux qui ne pensent pas venir, priez et vraiment qu'ils puissent s'ouvrir des portes et puis avoir des discussions sympas. Alors voilà. Donc, s'il y a des personnes disponibles ces jours-là, je vous invite à me rejoindre. Donc, au niveau de la cuisine, on est déjà presque complet, mais au niveau de la buvette et au niveau de l'animation pour les enfants, donc il y a encore quelques places. Alors, venez vers moi pour une inscription et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci.
Bonjour. Ma propre maman m'a confondue avec Ludovic, mais c'est pas grave. Je viens pour la même chose. Donc c'est par rapport au groupe de jeunes. Nous avons une bonne nouvelle. Chaque année, normalement, j'aime pas trop dire ce mot, mais normalement, on fait un camp de ski à Nouvel An. Et puis, vous savez sûrement, le ski, ça coûte cher, louer un chalet, ça coûte cher, etc. Et comme on n'a pas envie que les jeunes doivent payer 700 francs leur semaine, on essaie de récolter de l'argent avant. Donc, ce qu'on fait, on a fait pendant beaucoup d'années, c'est un petit déjeuner avec des tresses que les gens du groupe de jeunes confectionnent pendant de nombreuses heures, on va dire ça comme ça. Et puis, donc, ça n'a pas pu se faire l'année dernière, mais on va faire un petit peu un nouveau format cette année. Donc, on va vous refaire une vente de tresses cette année. Simplement, il n'y aura pas de petit déjeuner. Donc, vous pouvez retenir la date du 27 juin. Nous, on va confectionner les tresses le 26. Et puis, vous pourrez les récupérer le 27. Donc, il faut que je m'organise pour vous communiquer les informations. Donc, vous pouvez nous passer des commandes jusqu'au 24 juin. Et puis, vous pouvez vous inscrire. Soit il y a une liste à l'extérieur sur le petit panneau d'affichage. Et puis, vous pouvez nous donner vos noms, combien de tresses vous voulez. Soit alors, on a aussi envoyé un Actu Mérin. Et puis, il y a un lien. Vous pouvez cliquer dessus et puis aussi mettre les informations avec ce que vous voulez. Et puis ensuite, pour récupérer les tresses, nous, on sera là le dimanche 27. Donc, soit on pourra directement vous les donner à la fin du culte, Soit alors, vous avez carrément un service de livraison à domicile. Donc, si jamais vous voulez vous faire livrer vos tresses, c'est possible aussi. Vous verrez, c'est tout indiqué pour le, enfin, là où vous vous inscrivez. Et le prix est libre. Vous pourrez nous payer soit en cash, on mettra une boîte à disposition, soit par virement, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Et puis il y a les coordonnées bancaires qui sont dans le mail et puis sur le Google Forms. Et maintenant, j'essaie de me rappeler si j'ai oublié des choses. Je crois pas. Si vous avez des questions, dites-moi. Ok. Merci beaucoup.
Bonjour. Philippe avait une annonce, là, si tu veux venir la faire maintenant.
Bonjour à chacun, chacune. J'espère que vous êtes heureux de pouvoir chanter à nouveau tous ensemble. C'est chouette, hein. C'est chouette aussi de se retrouver avec une salle archi pleine. J'attire juste votre attention aussi à vous qui nous regardez en ligne. L'inscription préalable reste obligatoire. Nous devons tenir une liste à jour pour les services du médecin cantonal qui passe faire des contrôles. Donc je vous invite vraiment, si vous souhaitez participer au culte, à vous inscrire préalablement. Puis à un moment donné, voilà, normalement, on a 75, 76 places. Aujourd'hui, on atteint largement les 80. On peut pas aller plus loin. Donc merci, s'il vous plaît, de respecter ces petits protocoles qui nous permettront de maintenir nos cultes de façon souple, fraternelle et agréable. Ça fait peut-être aussi partie de la solidarité de voilà se tenir les pouces les uns les autres. Merci de jouer le jeu, ça nous aide vraiment. Merci.
Voilà. Alors, les annonces des activités. Alors, cette semaine, mardi soir à 20h15, la rencontre de prière qui a lieu dans le foyer, là, où vous êtes les bienvenus. Jeudi à 20h, séance du conseil. Et vendredi, ce sera la dernière séance du caté. Alors, le programme est encore pas tout à fait défini, mais les parents recevront un mail pendant la semaine avant vendredi, avec toutes les informations. Et vendredi 25 juin, nous avons le colloque, donc l'Assemblée Générale de l'Église. Alors, vous avez reçu par mail, ceux qui n'ont pas les mails, mais qui reçoivent par enveloppe, vous allez les recevoir, vous recevez les enveloppes mardi. Alors, si des personnes ne sont pas inscrites dans les membres et qui aimeraient recevoir ces informations, vous pouvez vous adresser à Sylvain qui tient à jour le fichier. Alors voilà. Il ne faut aussi pas oublier de s'inscrire donc pour le colloque. Hein. On a droit à 50 personnes. Alors il y a le lien où vous pouvez aussi vous inscrire. Si ce n'est pas par Internet, vous pouvez vous inscrire auprès de Philippe. Voilà, avant le 25. Je crois que... Alors, comme Charlabelle l'a rappelé dans sa prière, on est membre d'une grande famille. Et puis, en général, dans les familles, on aime bien, quand quelqu'un a son anniversaire, lui souhaiter un bon anniversaire. Alors, aujourd'hui, il y a un membre de notre famille qui a son anniversaire, et c'est Heidi Henniger. Et Heidi, alors, je crois, 93, c'est ça? 93 ans, c'est ça? Alors, on te souhaite un très bon anniversaire. On te remercie pour tout ce que tu as apporté dans notre communauté depuis tant d'années, avec Armand, bien sûr. Et on te souhaite encore de belles années et que Dieu te bénisse, Heidi.
Alors, oui, Philippe, c'est bien une question de solidarité d'abord, de respecter les consignes sanitaires, et non pas une espèce d'obéissance servile à un État tout-puissant qui voudrait nous brimer. C'est vraiment une solidarité dans la société. J'aimerais vous lire en guise de bénédiction, en guise de bénédiction, un texte, vous pouvez vous lever, que Paul adresse juste après un passage où il parle justement de cette difficulté entre les uns et les autres dans la communauté, et les appelle à vivre leur foi ensemble. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et plus loin, « Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit-Saint. » Bon dimanche, bonne semaine à chacun.